Ils exercent un métier essentiel, un métier de passion, de passeur. Partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui créent dans la cité des espaces de culture et de convivialité. Ils nous racontent leur parcours personnel, les valeurs qui les animent, les coulisses de leur profession. Écoutons-les, des libraires se livrent.
Portrait de libraire. Brice Torrecillas s'entretient avec Anne Bougerolles, librairie Priva, à Toulouse.
Bonjour Anne Bougerolles. Merci de nous recevoir dans votre librairie Priva au 14 rue des Arts à Toulouse. Une librairie vénérable puisqu'il s'agit de la plus ancienne de la ville, créée en 1839, mais nous reviendrons là-dessus. D'abord, je voudrais en venir à votre propre parcours. Il s'agit de portraits de libraires. Et le mot libraire résonne tout particulièrement chez vous, puisqu'il s'agit carrément d'une dynastie. J'ai découvert que votre grand-père, et bien évidemment votre père, on en reparlera aussi, était libraire. Racontez-nous ça.
Oui. donc mon grand-père était libraire. Il a repris en tout cas la librairie Joanneau à Toulouse, qui est une librairie qui était une librairie religieuse. Et il a été libraire pendant pas mal d'années. Et c'est mon père qui a repris sa suite à la librairie Joanneau et avant de racheter la maison du livre à
Rodez. Voilà. C'est ça. L'atmosphère familiale, vous baignez dans les livres et ça allait de soi que vous deveniez libraire ou vous auriez pu au contraire avoir envie de rejeter tout cet univers ?
Pas du tout. J'ai jamais voulu être libraire.
Ah bon ?
Quand j'étais jeune. Donc.
Et alors, comment vous êtes-vous retrouvé ici ?
Quand je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire vraiment plus tard, après, à 18 ans, j'ai fait une prépa littéraire sans savoir ce que j'allais faire.
D'accord.
Et à la fin de la prépa, j'ai fait une licence d'histoire. Enfin, j'ai fait la troisième année de la licence d'histoire. Et c'est cette année-là où je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'allais faire. Et même cette année-là, j'ai postulé à un master métier du livre. Si j'avais pas été prise, j'aurais continué en master d'histoire pour devenir institutrice. Donc, et j'ai été prise en master métier du livre et du coup, je suis partie dans cette direction.
Sans regret, je suppose.
Ah oui, non, sans regret après, mais il n'y avait pas de.
Oui, de vocation.
De vocation toute tracée dès très jeune. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, mais j'aimais lire, mais ça ne suffit pas pour devenir libraire.
Vous aimiez lire quoi ?
De tout. J'ai toujours lu, après quand j'étais jeune, c'était des livres jeunesse, voilà. Et après, littérature, moi j'étais beaucoup SF, fantasy quand j'étais jeune.
Ouais.
Voilà.
Et histoire, non, je suppose, vu vos études ?
Histoire pour les études.
Ouais.
Mais pas forcément, pour le plaisir, voilà.
D'accord.
Donc, pour le plaisir, ça restait roman.
Voilà. Et après vos études consacrées justement au métier du livre, vous retrouvez à Rouen.
Oui, j'étais embauchée à Rouen pour mon premier travail.
Vous nous racontez un peu.
À l'Armitière, en librairie jeunesse. Donc c'est ce que je voulais. Et du coup, j'ai fait un an et demi, deux ans en tant que libraire jeunesse à l'Armitière, vraiment le côté jeunesse, parce qu'il y avait un côté adulte, un côté jeunesse, donc vraiment séparé de deux magasins différents. Donc j'étais vraiment dans le magasin où on faisait que de la jeunesse. Et au bout d'un an et demi, deux ans, Mathieu de Montchalin a décidé d'ouvrir. La procure de Rouen a fermé. Mathieu de Montchalin a décidé de rouvrir une petite procure pour qu'il y ait toujours une petite librairie religieuse à Rouen.
Ouais.
Et il m'a proposé de m'en occuper. Et du coup, je m'en suis occupée pendant un an et demi. Voilà. Et là, ça m'a permis de voir un peu le côté plus gestion. Parce que j'étais quand même toute seule dans le petit magasin.
Ouais.
Donc j'ai découvert un peu la gestion.
Des bons souvenirs.
Tout de A à Z.
Des bons souvenirs de cette époque ?
La procure, oui. Après un an et demi, c'était bien. J'aurais pas fait beaucoup plus. je cherchais...
Et pour quelle raison, dites-moi ? Je suis curieux. Pourquoi vous n'auriez pas fait beaucoup plus ?
Parce que je suis pas une libraire religieuse dans l'âme.
D'accord.
De fait.
Ouais.
Même si c'était intéressant comme expérience. Et être toute seule dans un petit magasin de... Alors, ça faisait quoi, 50, 60 mètres carrés, même pas. Hein. Non, 40, 50 mètres carrés. Et du coup, moi, j'étais toute seule à longueur de journée.
D'accord. C'est...
Voilà, on fait ça un an et demi, ça fait de l'expérience, mais
ouais, je comprends
on a envie
mieux,
de
oui.
faire autre chose après.
Tout à fait.
Quand même.
En revanche, vous n'êtes pas seule à Priva, chez Priva. Alors, racontez-nous de quelle manière vous vous êtes retrouvée dans cette librairie, encore une fois très vénérable, puisque, je le répète, il s'agit de la toute première librairie créée à Toulouse 1839. Mazette.
Ouais. Bah, c'est en lien avec le fait que j'étais à la procure et que je cherchais effectivement au bout d'un an, un an et demi à bouger. Et Benoît a eu le projet, c'est à ce moment-là que Priva a été mis en vente par Chapitre.
Par Chapitre, oui.
Voilà.
Et, qui est une chaîne de librairie.
Une chaîne qui n'existe plus.
Voilà, qui n'existe plus.
Enfin, qui existe sur Internet encore, hein, parce qu'ils ont toujours leur site librairiechapitre.com.
D'accord.
Mais il n'y a plus aucune librairie Chapitre en France.
Et donc, Chapitre ferme ses librairies, ferme donc la librairie de Toulouse.
Non, Chapitre a décidé de vendre quelques-unes de ses librairies.
D'accord.
Dont Priva.
Ouais.
C'est en décembre 2013 qu'ils ont fait faillite et que pour le coup tout s'est arrêté. Nous, on a racheté en octobre 2013. Donc, Priva faisait partie des librairies qu'ils vendaient avant
l'issue fatale, on va dire, pour eux.
Voilà. Et du coup, c'est mon père, du coup, Benoît Bougerolles, qui s'est mis sur le projet. Et comme moi, il savait que je cherchais ailleurs, j'avais déjà postulé dans d'autres librairies. Et bien, du coup, on en a discuté.
Ouais.
Et on s'est dit pourquoi pas. Après, moi, je suis de Toulouse de base, donc revenir à Toulouse, ça m'allait très bien aussi.
D'accord.
Et ça s'est fait un peu comme ça. Je n'ai pas forcément réfléchi au fait que de ce que ça pouvait vraiment impliquer derrière.
C'est-à-dire d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire parce qu'il s'agit d'une institution ou parce que c'est un gros, gros,
non,
gros
parce
travail
que, parce que c'est un gros travail et parce que je suis devenue directrice, co-gérante avec Benoît, du coup mon père, que j'appelle Benoît.
Oui, j'entends. et on va préciser qu'il a la librairie Maison du Livre à Rodez, c'est bien ça?
Voilà, exactement.
Mais un grand monsieur de la librairie, il a été président du syndicat de la librairie française, si je ne m'abuse.
Oui. Oui, il a été très actif, il a été président il y a quelques années maintenant, pendant ses 3-4 ans, je crois, la présidence du SLF. Et après, il est toujours très actif dans ces milieux-là.
Alors racontez-nous votre arrivée ici. Alors vous ne mesuriez pas l'enjeu, me disiez-vous, mais ça s'est passé comment? Parce qu'il s'agissait de remonter plus ou moins une librairie qui, il faut être honnête, elle battait un peu de l'aile, non?
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça fait partie des librairies que Chapitre vendait.
D'accord.
Chapitre vendait les librairies qui n'allaient pas bien et sur le principe gardait les librairies qui allaient bien. Okay. On a eu beaucoup de surprises.
Mauvaises ou bonnes?
Beaucoup de mauvaises surprises, soyons honnêtes.
Ouais.
On ne s'attendait pas du tout à tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ça impliquait beaucoup, beaucoup de travail. Benoît venait... alors au début, il venait quasiment une fois par semaine, plusieurs jours. Bon, fil de l'eau, maintenant, il vient... une fois, de temps en temps, récupérer des documents.
À la barre.
Voilà. Mais le début a été très, très, très compliqué à tous les niveaux.
Alors, prenons-les un par un, ces niveaux. On pourrait commencer par l'équipe. Est-ce qu'il s'agit de la même équipe désormais? Et sinon, comment avez-vous recruté? Quel profil avez-vous recruté?
L'équipe, elle a... complètement changé. On n'a plus que 3 personnes de l'ancienne équipe, sur une équipe de 13. Et le recrutement, après, ça se fait à chaque fois qu'on a dû chercher. On a fait des annonces sur le site de l'INFL, des annonces sur Livre Hebdo, donc sur leur site et sur le Livre Hebdo papier. Et on a eu
des candidatures.
On a des profils... avec expérience, sans expérience. Enfin, ça dépendait vraiment de ce qu'on cherchait au niveau du poste. Mais on a recruté un peu tous les profils, mais toujours des gens qui ont travaillé déjà en librairie, qui savent ce que ça implique.
Et les libraires que vous avez, ce sont des libraires à qui sont attribués des rayons spécifiques ou ils sont tous polyvalents?
Ah oui, non, chaque libraire a un rayon. On n'a aucun libraire... tous les libraires sont censés pouvoir être polyvalents sur tous les postes, mais Actuellement, il y a 10 libraires et les 10 libraires ont chacun des rayons particuliers.
Alors ces rayons, vous les avez revisités, est-ce que la structure est la même? C'est quand on pousse la porte de chez Privat, est-ce qu'on retrouve la même architecture qu'il y avait préalablement?
L'architecture, oui.
Oui, si vous voulez. J'entends bien, mais l'architecture des rayons.
Mais non, ça a beaucoup changé en 7 ans. Déjà, alors vous pouvez le voir quand... Parce qu'on... Ce sera fini dans quelques mois, ouais. Mais il nous reste encore une partie sur laquelle on n'a pas fait de travaux, mais on a commencé à faire des travaux en janvier 2014.
D'accord.
Donc on a commencé par l'entrée, on a commencé par la littérature et le rayon jeunesse.
Ouais, 2014, oui, effectivement, on est à 7 ou 8 ans là.
C'est ça, ouais. Ça fait 7 ans, on n'a pas encore fini tous les travaux, hein, il en reste. Et on a refait tout le mobilier au fur et à mesure, donc le mobilier, le sol, les lumières.
Et quel était le but de la rendre plus éclairée, plus lumineuse,
Alors c'était de changer le mobilier qui faisait vieillot et qui n'avait pas bougé depuis 25-30 ans.
D'accord.
Et qui est un mobilier qui n'était pas du tout pratique pour les libraires aussi au niveau... Si on prend le côté vraiment très pratique, parce que bouger les étagères sur l'ancien mobilier... fallait le vouloir.
Ah ouais. Voilà. Donc, ça développe les muscles.
C'est ça. Mais du coup, là, on a mis le même mobilier partout. C'est très pratique pour les libraires. Et ça donne un nouveau souffle aussi. Ça montre que ça a été racheté, qu'il s'est passé des choses. Et ça fait... Enfin,
ça Est-ce fait qu'il y a des secteurs que vous avez développés plus que d'autres?
La jeunesse.
Ouais.
Parce que la jeunesse, on l'a remis sur les deux côtés. Et au début, c'était qu'au fond.
Ouais.
On a rouvert le petit couloir en faisant les travaux et du coup maintenant c'est des deux côtés.
Ouais.
La littérature, parce que la littérature prend maintenant tout l'espace et avant il y avait aussi les polars avec.
Mm-hmm. Et c'est ce qui...
La BD aussi. Bah, après les gros secteurs qui montent aussi en librairie et qu'on a vraiment...
Alors justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Quels sont les secteurs les plus porteurs, pour utiliser un vilain mot?
Pareil dans toute librairie, la littérature,
ouais.
La jeunesse...
Plus que, par exemple, le développement personnel qui est très à la mode en ce moment.
Ah oui, ça a beau être à la mode, ça n'a rien à voir. La littérature a toujours été un gros rayon en librairie et ça le reste.
Ouais.
La jeunesse, pareil. Et là, actuellement, la BD a toujours été un rayon qui monte. Mais là, depuis un an, avec tout ce qui s'est passé, c'est particulièrement... il monte même plus que la jeunesse,
ouais.
Et même au niveau national. Ce qui est impressionnant pour ce rayon-là, mais c'est bien. Mais le développement personnel, ça monte, mais c'est pas des...
Des quantités astronomiques.
C'est pas la même chose, quoi.
D'accord.
Voilà.
Vous avez fait allusion à ce qui s'est passé, autrement dit, ce fameux confinement, ce triste confinement. J'ai découvert que sur les réseaux sociaux, vous faisiez part de vos coups de cœur littéraires.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé? C'est venu tout de suite? Vous avez eu l'idée de ne pas vouloir rompre le lien ou c'est...
On le faisait déjà avant.
Ouais.
On était déjà sur Facebook, on était déjà sur Instagram.
Vous-même, personnellement, à défendre vos...
La librairie?
Oui. Vous-même, je veux dire, vos propres livres. C'était la voix d'Anne Mougerol qu'on voyait, c'était et la silhouette d'Anne Mougerol.
Sur Facebook et Instagram, c'est les libraires.
D'accord, ok.
Moi, j'ai pas Facebook et j'ai pas Instagram.
Il suffisait de le savoir.
C'est ça. Mais donc, je parle vraiment pour la librairie. Hein. Donc on avait déjà et on faisait déjà. Et effectivement, on a eu une réunion, du coup on a dû fermer. On a fait une première réunion via Zoom avec tous les salariés.
Mm-hmm.
Et on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait être présent sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on était toujours là, même si on était fermé, et qu'on pouvait toujours conseiller, faire une partie en tout cas de notre métier. Et donc tous les libraires se sont impliqués et... Tous les libraires ont... Alors, la personne qui s'occupe de la communication s'est occupée de Facebook et Instagram pendant cette période-là.
Mmh.
Et tous les libraires ont fait remonter régulièrement des coups de cœur ou une sélection de livres.
Et vous avez pu constater que ça fonctionnait bien?
On avait des retours positifs. Après, on n'a pas eu le retour...
Oui, bien sûr, physique, on va
physique
dire.
Physique de ça. Mais ça a bien... En tout cas, les gens ont apprécié. Voilà. Et de toute façon, on a continué après...
C'est ce que j'allais vous dire. Vous continuez.
On a toujours Facebook, on a toujours Instagram. Donc,
de plus belle.
Voilà.
Est-ce qu'il y a eu, à la fois suite à cette expérience et suite à la rénovation de la librairie, on va dire, est-ce qu'il y a eu un renouvellement de la clientèle?
Ça, c'est la grande question. Oui. Enfin, on a beaucoup plus de monde actuellement et on sent qu'on a beaucoup de nouveaux clients. La question, c'est qu'actuellement, tout est fermé.
Ouais.
Il n'y a pas tout le milieu culturel, musée, cinéma, les gens ne peuvent plus y aller. Les gens ne peuvent plus aller au restaurant, ne peuvent plus aller dans les bars. Forcément, la lecture, le temps de lecture s'agrandit. Donc, les gens lisent plus, donc vont plus en librairie.
Mmh.
La question, ce sera l'après. C'est-à-dire, quand le temps de lecture va se réduire, est-ce que vraiment, on pourra dire qu'on a gagné une clientèle ? Parce qu'actuellement, c'est sûr, on a des gens qui ne venaient pas... On a eu des retours aussi de gens qui disaient « Ah ben, je lisais plus, maintenant j'ai redécouvert la lecture. » Donc c'est génial.
Il y a quelque chose, malheur est bon.
Il y a quand même quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. On verra l'après, quand tout va rouvrir, est-ce que les gens vont continuer ou pas. Je pense qu'il y en a une partie qui va continuer. Après, on verra exactement
on croise les
comment
doigts.
Tout ça va se faire.
si on remonte en arrière, avant justement ce gros problème, il y a eu des moments au temps de l'âge d'or, des rencontres physiques avec des auteurs, j'ai vu, aussi prestigieux que Pierre Lemaître ou Alain Mabankou, non ?
Alors, Alain Mabankou, c'était dans le cadre du Marathon des mots.
Ouais.
Donc c'est toujours un cadre un peu spécifique parce que c'est le Marathon des mots qui gère de A à Z. Donc ils emmènent l'auteur et ramènent l'auteur dès que la rencontre est terminée. Mais il était très sympathique. Après moi je l'ai pas, on s'est juste salué. Il y a toujours beaucoup de monde à ces rencontres-là. Donc je saluais un peu de comme ça et puis c'était fait. Mais très très sympathique. Et on avait eu des retours très très positifs des clients qui étaient très contents de l'avoir vu.
Et d'autres moments alors moins littéraire, mais par exemple, il y a un certain Nicolas Sarkozy qui est venu ici.
Oui, il est venu à deux reprises. Tout comme, je le précise aussi, parce qu'on n'est pas... tout comme le président Hollande.
Oui, François Hollande, oui, tout à fait.
Je le précise parce qu'on n'est pas positionné sur... on est la librairie qui accueille de manière un peu historique les hommes politiques. On n'est pas...
se positionne engagé, ni de droite, ni à de gauche, ni à droite.
De gauche, voilà, on évite les extrêmes, quoi qu'il en soit.
Ouais.
Mais on reçoit des deux côtés. Donc effectivement, on a reçu le président Sarkozy à deux reprises. Ça a été un peu la première fois, j'étais pas là. Moi, j'étais en vacances.
Ouais.
et j'ai appris pendant mes vacances, parce que j'ai reçu l'infolettre de la librairie Priva, que nous allions recevoir le président Sarkozy.
Ouais.
J'étais là, que se passe-t-il? Donc, la deuxième fois, c'est bon, j'étais là, j'étais au courant.
Et alors, comment ça s'est passé?
Alors, ça a été compliqué à mettre en place, parce que c'est forcément, ils ont leur staff sécurité, etc.
Ouais.
Donc en amont, il faut tout prévoir, il faut prévoir le dispositif, enfin voilà, par où rentrent les gens, par où sortent les gens, comment ça se passe, etc. Mais après, les gens étaient, voilà, les gens qui sont venus et qui ont pu le voir étaient vraiment très très contents.
Donc ça reste un
contents.
Bon souvenir.
Ça reste quand même un bon souvenir, mais un souvenir où voilà, il fallait vraiment tout prévoir, tout cadrer
pour
que tout se passe, comme il faut. Voilà.
Parlons de la concurrence maintenant, qu'il s'agisse des grandes surfaces ou des sites numériques. Comment vous agissez? Est-ce que vous voyez son effet délétère sur votre travail?
On ne va pas le citer, mais on pense tous au même.
Oh, vous pouvez le citer, on l'a
pour
cité.
Pour le site internet.
Ça commence par un A.
Par un A.
Donc, tenons-nous à ce A.
Tout
alors,
monde
dites-nous.
Sait.
Dites-nous votre opinion là-dessus et sur votre manière d'aborder ce problème-là.
À nous, la manière d'aborder. Alors, nous, on a un site internet quand même qui fait effectivement depuis qu'on a repris la librairie, qui fait la vente sur internet avec l'expédition, mais aussi le retrait magasin, même si on axe vraiment sur le retrait magasin, parce que là où on peut entre guillemets se battre et faire la différence, c'est quand les gens viennent en magasin, c'est le conseil client, l'accueil client, l'atmosphère de la librairie qu'il n'y a pas sur internet,
hein. Ouais.
donc c'est là-dessus qu'on se bat, comme les réseaux sociaux. Finalement, les réseaux sociaux, c'est du conseil fictif, mais le but, c'est que les gens, après, ils aient envie, en fait, finalement, de venir physiquement à la librairie pour découvrir ce qu'on leur a proposé et découvrir même plus, parce que l'intérêt de la librairie, c'est qu'il y a ce qu'on pense, ce à quoi on pense, et tout ce qu'on va voir sur les tables auxquelles on n'a pas pensé et qu'on va découvrir. Mmh. Et c'est ça l'intérêt. C'est là-dessus, en fait, qu'on peut se battre.
Et à propos de contact et de convivialité, vous me dites si je me trompe, mais il y a un coin café ici, non ?
Oui, alors,
oui,
on a essayé de... Bon, en ce moment, c'est pas... De toute façon, il est fermé.
Oui, bien évidemment.
C'est vrai qu'on a mis en place un coin café qui reste pour l'instant un coin vraiment café.
Ouais.
C'est un petit coin. Ça a du mal à se développer. On avait mis en fait une machine mm-hmm. toute simple, enfin un distributeur en fait.
Hein, ouais.
Et ça n'a pas, bon, ça un peu marché, sans plus. Et on était en plein de réflexions pour changer ça, pour mettre plutôt une petite machine à café où les gens puissent se servir, etc. Enfin voilà, on avait pensé rechanger tout l'espace pour essayer de dynamiser un peu.
Favoriser la convivialité.
C'était début 2020. Mm-hmm. Donc du coup, ça s'est un peu arrêté. Et il va falloir qu'on reprenne les réflexions, quand on pourra rouvrir, etc. On reprendra la réflexion pour essayer de le développer un peu plus, que les gens repèrent qu'il y a bien un coin café, que c'est sympa. Parce que pour l'instant, c'était histoire d'eux, mais ça...
D'accord. Et de manière plus large, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite ? Bon, du succès, ça, on veut bien... enfin, on comprend bien, mais dites-moi, est-ce qu'il y a des projets précis ?
Nous, les projets précis... c'est finir les travaux,
ouais,
et que tout se passe bien à ce niveau-là. Et non, après, bah, on parlait du fait qu'on a beaucoup de clients qui sont venus, mm-hmm. qui ont redécouvert la lecture. Tout ce qu'on peut souhaiter à toutes les librairies d'ailleurs de France, c'est que ces gens-là gardent le goût de la lecture, continuent à venir et transmettent à leur tour le goût de la lecture à d'autres, et que les gens prennent l'habitude aussi de venir en magasin. Ce qui est un problème plus large, hein, ça ne concerne pas que la librairie, parce que quand on parle d'Amazon, pour ne pas les citer, ce n'est pas que le problème du livre en fait, c'est aussi un problème beaucoup plus large, ça touche tous les secteurs. Et on peut juste espérer que les gens, voilà, on parle beaucoup de petits commerces, on a beaucoup parlé de petits commerces, on en parle toujours beaucoup avec l'histoire de confinement, que les gens qui ont découvert les petits commerces se disent que oui, ça vaut le coup parfois d'attendre un petit peu pour avoir son livre, de venir, de prendre le temps de venir. Pour voir que ce soit là en librairie ou ailleurs. Voilà, on peut espérer que ça a changé un petit peu les mentalités peut-être, et que les gens ont redécouvert quelque chose, une manière d'être qui est aussi plus apaisée, plus calme, de prendre son temps et de se faire plaisir.
On peut donc venir au 14 rue des Arts dans la librairie Priva. Merci beaucoup Anne Bougerol.
Avec plaisir.
Portrait de libraire, un podcast du Marathon des mots, avec le soutien de Toulouse Métropole.